le cadre de la Journée internationale pour les droits des femmes, l'agence Pôle emploi de Mont-de-Marsan organisait deux actions, les 1er et 8 mars. L'opération Potentiel avait pour objectif de faciliter l'accès des femmes à l'emploi en levant les différents freins qu'elles peuvent rencontrer et en découvrant les métiers et secteurs qui recrutent. L'AQM, la CPM, l'INFREP, l'INSUP, la Région, le Café Musique, la plateforme sociale du Marsan et bien d'autres partenaires avaient répondu présents et présentes. Nous sommes donc rendus à l'auberge landaise où se déroulaient ces actions le 1er mars dernier.
Je suis Marielle Free, je suis la psychologue du travail de l'agence Pôle emploi de Mont-de-Marsan. Alors cette journée spécifiquement, qui est la première d'une action qui se déroule en deux temps, est une journée qu'on a voulu rassemblant le maximum de partenaires, de prestataires, d'associations qui pourraient être aidants, alors en l'occurrence auprès du public féminin de toute notre zone, puisqu'on s'adresse à nos femmes demandeurs d'emploi, mais l'action est ouverte en entrée libre à toute personne qui souhaite venir chercher des informations. Donc sur, en fait, toutes les aides, conseils, accompagnements qu'on peut mobiliser ou leur apporter sur tous les freins qu'elles pourraient rencontrer dans leur insertion professionnelle. Alors ça peut être en lien avec des problèmes sociaux, avec des problèmes de santé, avec des problèmes de mobilité, des problèmes de logement, des problèmes de garde d'enfants, d'isolement, de manque d'autonomie digitale, de manque de confiance en soi, tout simplement aussi dans les recherches et dans les entretiens, voilà, de remise à niveau pour accéder à des formations, voilà, tout ce qui peut représenter un frein pour réussir son insertion.
Et donc là, ce sont des personnes qui ont des outils à leur transmettre à ces femmes qui vont venir aujourd'hui pour justement aller au-delà de ces freins.
Voilà, l'idée, c'est effectivement des partenaires, tous les partenaires qui sont là ont des solutions, des aides, des conseils, voire des accompagnements à leur proposer pour aider à lever ces freins. Alors bien sûr, ça se fait pas forcément dans le cadre d'un rendez-vous sur un forum. Quelquefois, ça peut suffire d'apporter une aide, un conseil qui manquait, qui peut débloquer une situation. Mais ça peut aussi ouvrir la porte à des accompagnements, à, je pense, des soins si c'est nécessaire, à des à mobilisation de prestations qui peuvent les aider, de conseils qui peuvent rebondir sur d'autres structures, voilà.
Ça, c'est pas un travail que fait Pôle emploi à l'année, cet accompagnement et d'aller au-delà de ces freins-là?
Alors, bien sûr, on est là aussi pour aider, bien évidemment, les personnes qui sont le plus éloignées de l'emploi. Notre travail, c'est de faire le plus pour ceux qui en ont le plus besoin. Mais on n'a pas, nous, à notre main, les prestations, les aides ou le pouvoir d'intervenir sur tout ce qui relève de la santé, du droit social, de beaucoup de champs. Par contre, notre travail, c'est de mettre en contact avec les personnes qui peuvent aider. C'est d'identifier quel est le problème, quel est le besoin et qu'est-ce qui peut aider la personne et la renvoyer vers les structures, les associations, les prestataires qui peuvent les aider.
Donc aujourd'hui, pour construire cette journée dédiée à cette question des freins, comment vous avez choisi les personnes, les structures, les associations qui sont là?
Alors on est parti un petit peu de tout, à lister les différents freins qui peuvent exister, ce que je vous disais au départ, et du coup ensuite à repérer sur notre zone géographique quelles étaient les structures qui intervenaient, qui pourraient être là et apporter des infos. Alors on a des prestations qui existent, Pôle emploi peut mobiliser des prestations qui n'existent pas depuis très longtemps, mais maintenant depuis quelques années, suffisamment longtemps pour nous montrer que ça marche et que les résultats sont concluants, que les gens qui les ont suivis en sont contents, qui aident justement un petit peu à se présenter, ce qu'on appelle valoriser ses savoir-être, c'est-à-dire savoir mettre en avant autre chose que son CV et ses expériences, savoir mettre en avant ce qu'on est, savoir se présenter d'une manière plus positive. Et tout ça, ça renfloue la confiance en soi, ça donne de l'assurance et ça permet d'affronter les entretiens avec un peu plus de sérénité.
Est-ce que vous diriez que c'est la principale clé pour débloquer le reste des freins?
C'est une des clés principales. Après, quand il existe des problèmes vraiment de santé, il y a des interlocuteurs adaptés. Le reste ne suffira pas. Donc, c'est des choses qu'il faut faire conjointement. Quand il y a un problème de logement, quand il y a des problèmes financiers, on sait très bien que si ces freins ne sont pas levés, on ne pourra pas accéder à l'emploi c'est normal parce que c'est ce qui parasite toutes les démarches de recherche d'emploi. Donc il faut d'abord travailler sur ces freins-là pour après pouvoir se consacrer et être en capacité aussi à retrouver de l'assurance, de la confiance et à se présenter.
Donc tout est un peu lié en fait.
Exactement.
Bonjour.
Vous vous appelez comment ?
Martine.
Est-ce que vous pouvez juste m'expliquer ce que vous venez de faire ?
De tester mes petites compétences en informatique.
Ok. Voilà. Parce que vous avez l'impression que c'est un frein pour vous pour l'accès à l'emploi ?
Pas forcément pour l'accès à l'emploi, presque maintenant, pas dans la vie de tous les jours, mais souvent.
Et est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous êtes venue aujourd'hui ?
Eh bien, parce que ma conseillère Pôle emploi m'avait indiqué cette manifestation, et puis bon, voilà.
Et selon vous, vos freins à l'emploi à vous, ce serait quoi ?
Mon âge et la distance. Et là, oui, la distance.
Ouais, ok. Voilà. Et est-ce que vous estimez que vous allez pouvoir trouver des solutions ici aujourd'hui ?
Non.
Qu'est-ce que vous attendriez comme solution ?
Solution miracle, c'est qui n'existe pas. Mais non, en fait, non, là, je...
Vous habitez où ?
Saint-Dair, c'est-à-dire 60 km, une heure de Mont-de-Marsan, quoi,
okay,
voilà.
Ok, oui, donc je comprends que ce soit compliqué sur la distance. Et vous m'avez parlé de votre âge aussi, vous estimez vraiment que l'âge est un frein aujourd'hui pour...
Pour certaines... dans certains secteurs, oui.
Okay. Vous êtes dans quel secteur à la base ?
Oui, alors à la base, c'était restauration. Donc, mais c'est bon, justement, vu mon âge, j'arrête. Et donc, dans la vente, maintenant. Plutôt vente en alimentaire. Vente alimentaire.
Et c'est compliqué ?
Oui. Oui, c'est compliqué, surtout par rapport à la distance, quoi, c'est ça. Quoi. Parce que bon... 2 heures le matin à Leclerc, 2 heures l'après-midi à Leclerc, comme j'habite à 60 km.
Oui, c'est parce qu'en plus, c'est des journées qui sont...
Voilà, c'est 9 fois sur 10 ou 95 fois sur 100, c'est en coupure, donc c'est bon. Voilà, je ne vais pas partir 12 heures de chez moi pour travailler 5 heures, quoi. Voilà.
C'est celle-ci. Est-ce que tu l'utilises souvent ?
Oui.
Oui, donc je peux t'envoyer, si oui, j'ai des infos à t'envoyer, je peux te les envoyer sur 7-1. Mais super, donc c'est ça. Donc ça, c'est les informations que je t'ai notées ici. C'est ce qui me semble le plus approprié à ce que tu recherches, à savoir une formation qu'on appelle... Nous, c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est notre façon de l'appeler, le P1 numérique ou électronisme. Et ici, tu as toutes les infos de l'insu. Tu peux donc leur dire... pendant la prescription que tu es venue aujourd'hui, que tu as rencontré la collègue de l'INSUP qui t'a dit que ça serait potentiellement une bonne idée, une bonne potentialité de formation.
Je suis Alice Groux, je suis formatrice français langue étrangère et remise à niveau à l'INSUP de Mont-de-Marsan.
Tout le monde est concerné par les difficultés en numérique. Si à un moment donné, tu as choisi dans ta vie de pas t'y intéresser, en fait, tu peux vite être un peu... dépassé par ça, quoi. Et puis aussi, je trouve que dans l'accès au numérique, c'est bien de proposer toutes ces formations. Mais après, il y a un problème qui est un problème financier. Si t'as pas aussi la potentialité d'acheter un smartphone ou une tablette ou un ordinateur, en fait, qu'est-ce que tu en fais de ta formation pour la suite, quoi. Et ça, c'est vrai que la dématérialisation, je pense que ça a été le fait. La dématérialisation, c'est le fait que tous les services publics ou CAF ou Pôle emploi se passe maintenant beaucoup sur Internet. Ça a été vraiment difficile pour certaines personnes et ils se sont un peu dépassés par ça.
Oui, sachant qu'en plus la crise sanitaire a augmenté l'utilisation d'Internet et des services dématérialisés.
Oui, je pense. Et puis en fait, il y a vraiment un clivage entre des personnes qui sont très habituées, qui trouvent que c'est le symbole de la facilité, ça sera beaucoup plus facile, ça va aller plus vite, ça va sécuriser, on aura vos documents, on va pas vous les redemander une dizaine de fois papier, vous allez pas, enfin voilà. Il y a plein de gens qui ont ce discours-là, et un discours qui est totalement naturel pour les gens qui le maîtrisent, et à côté, t'as des gens qui disent, mais non, au contraire, c'est pas facile du tout, c'est angoissant. Il y a vraiment une angoisse autour de, mais si je le maîtrise pas, en fait, mon dossier, il va pas être pris en temps et en heure, personne va s'en occuper, donc ça génère beaucoup d'angoisse, en fait, l'ordinateur, quoi, chez plein de personnes.
Et là, aujourd'hui, il y a une dame qui me disait tout à l'heure, celle qui faisait le test, justement, que elle, pour elle, ses principaux freins, il y avait le déplacement, parce qu'elle habite loin, il y a son âge, et il y a, du coup, cet accès au numérique. Est-ce que, vous, c'était chose que des facteurs, des freins qui reviennent souvent ?
Tout le temps, tout le temps. Et c'est souvent en plus des personnes qui cumulent les freins. C'est-à-dire que elle habite à Morsinx, par exemple, cette dame. Et moi, je travaille en ce moment à Morsinx avec un groupe. Et en fait, ils sont très éloignés de tout, de l'emploi déjà et de toutes les structures. Et sauf qu'en fait, l'éloignement géographique demanderait encore plus aux gens qui sont éloignés géographiquement de connaître toutes ces choses-là numériques parce que justement, ils ne sont pas à côté. Et en fait, c'est l'inverse, quoi. Ils sont à la fois éloignés géographiquement et en plus, du coup, qui dit éloigné de l'emploi dit souvent financièrement plus compliqué, donc pas forcément possibilité d'acheter l'ordinateur, tout ça. Donc c'est un peu un cumul de tous ces freins-là, quoi. Pour moi, le plus gros frein dans l'accès à l'emploi pour les femmes, c'est se reformer un peu sur le tard et réapprendre à trouver une bonne formation et retourner, dans une dynamique de formation, alors que parfois, certaines personnes ont passé des années à s'occuper d'un foyer et elles se sentent n'avoir aucune compétence professionnelle parce qu'elles ont été, parce qu'elles se sentent uniquement femmes au foyer ou tout ça. Donc il faudrait déjà revaloriser le fait qu'avoir été femme au foyer et mère de plusieurs enfants, tout ça, est une compétence en soi et qu'on peut le valoriser pour potentiellement reprendre une formation et se former pour aller vers l'emploi. Donc déjà travailler sur la confiance en elles, essayer de les guider au mieux.
Nombreuses et nombreux étaient les partenaires ce jour-là. Après ce point avec INSUP, nous sommes allés rencontrer la CPAM.
Bien, moi, je m'appelle Marina Pinson. Je travaille à la mission accompagnement santé à la CPAM depuis début janvier. Et du coup, voilà, on accompagne les personnes qui sont en difficulté d'accès aux droits ou aux soins.
Alors, moi, je m'appelle Céline Nolibois. Comme Marina, je suis arrivée dans ce service début janvier, qui a pour mission, comme son nom l'indique, d'accompagner les personnes dans les droits, anticiper des ruptures de droits, leur faire connaître les droits auxquels ils peuvent prétendre et les accompagner aussi dans la réalisation des soins, puisqu'on peut se rendre compte que le frein financier peut... amener des ruptures de soins, la difficulté de trouver un médecin, etc., d'être informé sur le parcours de soins. Tout ça, donc, c'est notre mission d'accompagner les personnes dans ces domaines-là.
Et le lien entre les femmes qui n'ont pas forcément accès à l'emploi, le soin et votre dispositif, comment ça s'articule tout ça et quel rôle vous jouez là-dedans ?
Oui, on peut donner un exemple très concret qui peut se retrouver. Ben, par exemple, une personne qui est en rupture de soins, qui n'a pas les moyens financiers de refaire ses dents, ça peut être un frein à l'emploi, effectivement. Donc nous, on va se mettre en quête de trouver un dentiste, de négocier des tarifs, de proposer des aides financières, de proposer une mutuelle gratuite, voire peu coûteuse, pour que cet assuré puisse réaliser des soins sans reste à charge, voilà, et qui est pour ensuite trouver un emploi. Voilà, parce que la rupture de soins peut être un frein à l'emploi. Une personne en mauvaise santé peut avoir du mal à trouver un emploi.
Pour l'accès aux droits aussi, du coup. Une personne, par exemple, qui a trouvé un travail dans le régime salarié et qui, avant, a travaillé dans l'agricole, si ses droits sont fermés auprès de nous, nous, on va l'accompagner à ouvrir ses droits auprès de l'assurance maladie pour que son dossier soit à jour pour son embauche, du coup, dans son nouvel emploi.
Donc là, si on veut bénéficier d'un accompagnement, comment on fait, qui vient vous voir, comment ça se passe ?
On peut avoir des détections, on appelle ça des détections par nos collègues à l'accueil, de personnes qui viennent parce que, elles ont des soucis pour financer leurs soins, elles ont des soucis parce qu'elles n'ont plus de droit sur la carte vitale, etc. L'autre biais, c'est par les travailleurs sociaux. Avec qui on noue des partenariats, qui nous contactent. Donc on a des canaux internes, mail, téléphone, etc. Il y a des formulaires aussi qui peuvent compléter sur le site partenaire. Et donc on peut les avoir aussi par le biais des partenaires. Donc soit l'assuré est autonome et se prend en charge, va à l'accueil pour avoir des réponses et nos collègues nous contactent, ou bien ils sont accompagnés déjà par des travailleurs sociaux qui nous transmettent les situations par le biais d'un site partenaire, de mail, etc. L'autre biais aussi dont on a peut-être parlé, c'est l'examen de prévention en santé. La CPM, elle organise ces examens appelés avant bilan de santé. Donc, il y a un entretien avec des infirmières et des médecins. Et effectivement, c'est propice à un dialogue, à un échange avec le médecin sur des addictions, sur des choses comme ça, ou la rupture de soins, etc. Et effectivement, ce service-là peut aussi nous alerter sur des personnes en rupture de droits ou de soins. Voilà, on vous a laissé là. Là, c'est bien expliqué sur cette plaquette-là. Hein, c'est des bilans de santé. Il y a des personnes qui en ont entendu parler, qui viennent parce qu'elles étaient un peu elles s'occupent pas trop de leur santé. Elles ne vont pas trop voir le médecin. Là, c'est l'occasion de faire le point avec un médecin. Il y a une prise de sang, il y a des examens qui sont faits au niveau de la vue, de l'audition, d'autres choses. Et lors de l'entretien avec le personnel médical, effectivement, là, on peut détecter des ruptures.
C'est un bilan de santé, par contre, qui est gratuit
aussi. C'est important de le savoir. Ouais. Les gens n'ont pas besoin de faire d'avance de frais, peu importe leur situation.
Et le centre d'examen de santé, il a également une délégation pour centre de vaccination. Donc si les personnes ne sont pas à jour de leur vaccin hors Covid, parce qu'il n'y a pas que ça.
Vaccin obligatoire
et Covid aussi on fait, mais on en fait quoi. Pas que ça.
Quand on parle de santé de femmes aussi, moi ça me fait penser à une reprise après une grossesse éventuellement. Est-ce que vous accompagnez des femmes enceintes aussi et puis ensuite? Parce que ça, effectivement, on sait que c'est un frein pour les femmes.
Oui, parce que j'ai eu le cas là dernièrement. Il y a une personne qui est enceinte, donc qui est en congé maternité et qui n'a pas ses indemnités journalières. Ça, c'est un cas assez récurrent parce qu'on sait qu'en ce moment, c'est assez compliqué au niveau des indemnités journalières. Les délais sont assez longs, donc oui, on accompagne pour ça aussi quelqu'un qui n'a pas encore eu ses indemnités journalières, congé maternité ou congé paternité, ça dans les deux sens. On peut accompagner aussi et faire. On est un intermédiaire en fait avec les autres services aussi. Donc on va pouvoir soit nous déclencher le paiement parce qu'on a les habilitations ou demander l'intervention en urgence aussi pour ça ou pour enregistrer les déclarations présumées de grossesse qui parfois ne se font pas forcément automatiquement parce qu'il y a des soucis en ce moment. On accompagne aussi là-dessus. Ouais.
Comme j'entends accompagnement, moi, il y a de l'empathie aussi. Est-ce que vous avez ce rôle-là à jouer d'accompagnement, d'avoir une écoute aussi pour ces personnes ?
Tout à fait. Alors oui, il y a un suivi qui se fait en fait, si vous voulez. Quand on accompagne quelqu'un, on a un contact téléphonique, on peut rappeler, on se met, alors on appelle ça des échéances, c'est pas un joli mot, mais c'est notre jargon. On se met, si vous voulez, comme un petit agenda, un petit calendrier pour rappeler ces personnes, pour savoir si les soins sont réalisés, si les indemnités journalières ont été payées, enfin, pour les prévenir que les indemnités journalières sont payées, ça aussi. Oui, il y a un suivi. On ne lâche pas comme ça ces personnes-là. Hein, en général, elles ont besoin d'un accompagnement, donc ça prend tout le sens, tout son sens. Hein. C'est vraiment un accompagnement personnalisé.
On peut les recevoir physiquement aussi. Enfin, voilà, ça ne passe pas forcément que par téléphone, parce qu'on se doute bien que quand on est dans un service comme ça, on est en face de personnes qui sont en situation parfois de précarité et qui ont besoin aussi de contact physique. Donc on peut les recevoir physiquement aussi au centre d'examen de santé pour faire un point sur la situation. Il faut savoir que même si on n'a pas forcément la réponse à la question, ben on rappellera pour la donner ou on renverra vers un autre partenaire parce que du coup on est en contact avec énormément de partenaires. Voilà, oui, on ne s'arrête pas forcément à nos habilitations à nous et si on peut rediriger et envoyer ailleurs vers un autre partenaire, on le fera, oui, bien sûr.
Petit aparté par rapport à l'accompagnement des femmes enceintes, la CPM aussi a mis en place, ça va faire 10 ans, le retour à domicile pour les jeunes mamans qui ont accouché. Donc on met en place des visites de sages-femmes, hein, c'est nos collègues conseillères en assurance maladie qui mettent ça en place. Elles demandent à la jeune maman si elle connaît une sage-femme ou alors on contacte nous des sages-femmes qui vont venir à la maison peser le bébé, donner des conseils, etc. Voilà, ça se fait maintenant depuis 10 ans. Ça va aider, si vous voulez, dans les premières semaines de la jeune maman, ça va l'aider. Voilà.
Qu'est-ce que vous voulez que les femmes gardent à la fin de cette première journée ?
Alors l'idée, c'est qu'elles gardent surtout, qu'elles retiennent surtout l'idée qu'elles ne sont pas seules, qu'il ne faut pas qu'elles restent seules, qu'il ne faut pas qu'elles hésitent à franchir des portes, à poser des questions, à interpeller, parce qu'il y a automatiquement, à un moment donné, une structure, un endroit ou une personne qui peut les aider et leur apporter le soutien ou l'accompagnement nécessaire pour lever les difficultés qu'elles rencontrent. Donc surtout, ne pas hésiter à venir poser des questions, à venir rencontrer les gens, à interpeller sur les difficultés qu'on a pour qu'on puisse, nous, après, les renvoyer vers les interlocuteurs pertinents.
De vives réactions en studio, ça a échangé, ça a débattu pendant ce reportage. Qui veut s'exprimer la première?
Juste, je vais réagir à la dernière phrase. Ok, moi je suis complètement d'accord, sauf qu'il faut qu'elle soit en capacité de le faire. Ouais. Et pour ça, il y a des moyens peut-être dont on pourra parler après.
Alors moi, pour le CIDEF, j'aimerais réagir sur le mot frein, en fait. Au CIDEF, on fait de l'insertion des femmes et des personnes les plus fragilisées, les plus éloignées de l'emploi. Et alors, ce qu'on constate, en fait, c'est qu'on recueille des personnes qui sont souvent en fin de droit, en fin de parcours. C'est que ça fait des années qu'on leur parle de leurs freins. Je pense que quand on est une femme, en fait, on n'a que des freins dans cette société. Donc, peut-être que c'est plutôt l'inadéquation du marché de l'emploi qu'il faudrait cibler. Et justement, j'ai entendu dans cette interview une femme parler du fait que les compétences d'une femme qui avait élevé ses enfants étaient tout simplement pas reconnues sur le marché de l'emploi, ni même les compétences d'une femme qui a soigné sa mère mourante, par exemple. Ce sont des compétences qui ne sont pas du tout reconnues sur le marché de l'emploi.
Mais c'est pourtant un peu toutes les compétences, en fait, qu'on attribue un peu par nature aux femmes. Donc, à chaque fois, quand on explique qu'il faut que les femmes sont majoritaires dans le secteur du soin et qui font que ces emplois sont des emplois très souvent précaires aussi, qui Absolument. Font que ces emplois sont très peu reconnus.
Exact. Donc,
pardon, c'est juste pour rejoindre un petit peu
ce que tu dis. Ce qui est incroyable, c'est qu'on se plaint qu'il y a une pénurie dans ces métiers. Et cependant, on ne reconnaît pas ces compétences à des femmes qui ont cette expérience. Et en plus, on s'étonne qu'il y ait une pénurie, mais ces métiers sont sous-payés. Ils sont payés au SMIC et encore parfois moins parce que ces personnes, les personnes qui exercent le métier d'aide à domicile, par exemple, c'est ce qu'on a compris hier lors d'un événement organisé par le Sud-Ouest qui mettait à l'honneur une dame qui travaillait comme aide à domicile. Elle expliquait que les frais de déplacement, donc c'est un métier mobile, uniquement mobile, étaient à charge du salarié. Vous vous rendez compte? Ils sont à charge du salarié. Il est déjà payé au SMIC. Il a un boulot pénible physiquement, d'accord? Et il y a plus d'accidents du travail dans ces métiers-là que dans les métiers du bâtiment. Ouais. Et cependant, on continue à traiter ces statuts avec autant de mépris. Et après, on s'étonne qu'il y ait pénurie. Et en plus, on ne reconnaît pas ces compétences comme telles. Moi, je ne sais pas. Il me semble qu'il est temps de se remettre en question sur la structure même du marché de l'emploi, qui est une structure, encore une fois, comme beaucoup de structures, adaptée aux hommes et non aux femmes. Et ce ne sont pas les personnes qui ont des freins. Moi, j'en ai marre de ce mot parce que j'ai l'impression qu'on rend responsable l'individu des difficultés qu'il rencontre à intégrer le marché de l'emploi, alors que selon moi, ce ne sont pas que il faut qu'on arrête de reprocher aux gens de ne pas réussir à accéder à l'emploi, alors que la plupart du temps, ils sont motivés, ils ont envie d'accéder à l'emploi. C'est surtout que le marché, il est inadéquat. Voilà, c'est là-dessus que je voudrais, moi, travailler un jour avec les employeurs. On a des employeurs partenaires. Quand ils me disent on a du mal à recruter des aides à domicile, et quand je leur demande mais pourquoi vous augmentez pas les salaires quand il y a eu des pénuries de couvreurs et de plombiers, les salaires ont été augmentés, pourquoi vous augmentez pas les salaires des aides à domicile, on me regarde avec des yeux grands comme des soleils.
Mais il y aurait dû avoir donc Salima Sensou avec nous en ligne. Là, on peut peut-être juste signaler qu'il y a le département qui a fait un geste à l'attention justement des aides à domicile avec une revalorisation salariale à la hauteur de 180 euros, je crois, par mois et par employé. Donc, c'est à souligner, il y a cette démarche aussi à l'échelle locale. On parlait de politique, de qu'est-ce qu'on peut faire. Oui. Si déjà on voit qu'à l'échelle des Landes, c'est faisable, c'est certainement applicable ailleurs.
J'espère que l'exemplarité de cette collectivité qui est le Conseil départemental des Landes va inspirer d'autres collectivités et va inspirer d'autres employeurs qui emploient essentiellement des femmes, je l'espère, j'y crois. Vraiment, pour moi, en tout cas, j'en profite pour saluer l'initiative du Conseil départemental et pour saluer en général son exemplarité sur la question de la place des femmes dans la société.
Don't own me, I'm not just one of your many toys. You don't own me, don't say I can't go with other boys. And don't tell me what to do, don't tell me what to say, and please when I go out with you, you don't own me.
I'd never stay.